Le Nouveau Monde et les capitaux étrangers. Une autre différence essentielle entre l'histoire du capital en Amérique et en Europe est que les capitaux étrangers n'ont jamais eu qu'une importance relativement limitée aux États-Unis. Cela traduit le fait que les États-Unis, première colonie à avoir obtenu son indépendance, n'ont eux-mêmes jamais été une puissance coloniale. Tout au long du XIXe siècle, les États-Unis ont une position patrimoniale légèrement négative vis-à-vis du reste du monde. Ce que les résidents américains possèdent dans le reste du monde est inférieur à ce que les résidents du reste du monde, notamment britanniques, possèdent aux États-Unis. La différence est toutefois très faible, puisqu'elle représente au maximum de l'ordre de 10%-20% du revenu national américain, et généralement moins de 10% des années 1770 aux années 1910. Par exemple, à la veille de la Première Guerre mondiale, le capital intérieur des États-Unis, terres agricoles, logements, autres capitaux intérieurs, est évalué à 500% du revenu national américain. Sur ce total, les actifs possédés par des investisseurs étrangers, diminués des actifs étrangers détenus par les investisseurs américains, représente l'équivalent de 10% du revenu national. Le capital national, ou patrimoine national net des États-Unis, est donc égal à environ 490% du revenu national. Autrement dit, les États-Unis sont détenus à 98% par les Américains et à 2% par des étrangers. On est donc très près d'une situation d'équilibre, surtout par comparaison aux énormes actifs étrangers détenus par les Européens. Entre une et deux années de revenu national en France et au Royaume-Uni, et une demi-année en Allemagne. Le PIB américain étant à peine plus de la moitié du PIB ouest européen en 1913, cela signifie aussi que les Européens de 1913 ne détiennent qu'une petite part de leurs actifs étrangers aux États-Unis, moins de 5% de leur portefeuille. Pour résumer, le monde de 1913 est un monde où l'Europe possède une bonne part de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, et où les États-Unis se possèdent eux-mêmes. Avec les guerres mondiales, la position patrimoniale des États-Unis va s'inverser. De négative en 1913, elle devient légèrement positive à partir des années 1920 et le restera jusqu'aux années 1970-1980. Les États-Unis financent les belligérants et deviennent ainsi les créanciers des pays européens, après avoir été leurs débiteurs. Il faut cependant insister sur le fait que les actifs étrangers nets détenus par les Américains demeureront toujours relativement modestes, à peine 10% du revenu national. Voir graphique 4.6. En particulier, dans les années 1950-1960, le capital étranger net détenu par les États-Unis reste assez limité, à peine 5% du revenu national, alors que le capital intérieur avoisine les 400%, soit 80 fois plus. Les investissements des sociétés multinationales américaines en Europe et dans le reste du monde atteignent des niveaux qui semblent alors considérables, en particulier aux Européens, qui étaient habitués à posséder le monde et qui vivent assez mal de devoir en partie leur reconstruction à l'oncle Sam et au plan Marshall. En vérité, par-delà les traumatismes nationaux, ces investissements garderont toujours une ampleur limitée par comparaison aux placements que les ex-puissances coloniales détenaient dans l'ensemble de la planète quelques décennies plus tôt. En outre, les placements américains en Europe et ailleurs sont compensés par le maintien de fortes participations étrangères aux États-Unis, notamment en provenance du Royaume-Uni. Dans la série Mad Men, dont l'action se déroule au début des années 1960, l'agence new-yorkaise Sterling Cooper se fait racheter par de distingués actionnaires britanniques, ce qui ne manque pas de provoquer un choc culturel dans le petit monde de la publicité de Madison Avenue. Il n'est jamais facile d'être possédé par l'étranger. La position patrimoniale des États-Unis devient légèrement négative dans le courant des années 1980, puis de plus en plus nettement négative dans les années 1990-2000, à mesure que s'accumulent les déficits commerciaux. Les placements américains à l'étranger continuent toutefois de rapporter un bien meilleur rendement que ne coûtent les dettes américaines. C'est le privilège apporté par la confiance dans le dollar, ce qui a permis de limiter la dégradation de la position négative américaine qui était d'environ 10% du revenu national dans les années 1990 et dépasse légèrement les 20% au début des années 2010. Nous reviendrons sur cette dynamique du taux de rendement. Au final, la situation actuelle est donc assez proche de celle qui prévalait à la veille de la Première Guerre mondiale. Le capital intérieur des États-Unis est évalué à environ 450% du revenu national américain. Sur ce total, les actifs possédés par des investisseurs étrangers, diminués des actifs étrangers détenus par les investisseurs américains, représentent l'équivalent de 20% du revenu national. Le patrimoine national net des États-Unis est donc égal à environ 430% du revenu national. Autrement dit, les États-Unis sont détenus à plus de 95% par les Américains et à moins de 5% par des étrangers. Pour résumer, au cours de leur histoire, les États-Unis ont eu parfois une position patrimoniale légèrement négative vis-à-vis du reste du monde et parfois une position légèrement positive, mais ces positions ont toujours eu une importance relativement réduite par rapport à la masse des capitaux possédés par les Américains, toujours moins de 5%, et généralement moins de 2%. Le Canada, longtemps possédé par la couronne. Il est intéressant de noter qu'il en va tout à fait différemment au Canada, dont une part très significative du capital intérieur, jusqu'à un quart à la fin du 19e et au début du 20e siècle, était possédée par des investisseurs étrangers, notamment britanniques, en particulier dans le secteur des ressources naturelles, mines de cuivre, zinc, aluminium, ainsi que dans les hydrocarbures. En 1910, le capital intérieur du Canada est évalué à environ 530% du revenu national canadien. Sur ce total, les actifs possédés par des investisseurs étrangers, diminués des actifs étrangers détenus par les investisseurs canadiens, représentent l'équivalent de 120% du revenu national, soit entre un cinquième et un quart du total. Le patrimoine national net du Canada est donc égal à environ 410% du revenu national. Voir graphique 4.9. Cette situation a fortement évolué, notamment à la suite des guerres mondiales, qui ont conduit les Européens à se défaire d'une bonne partie de leurs avoirs étrangers. Mais cela a pris du temps. Des années 1950 aux années 1980, la dette étrangère nette du Canada représente de l'ordre de 10% de son capital intérieur, dans un contexte d'endettement public croissant à la fin de la période, qui sera consolidé dans les années 1990-2000. Au final, au début des années 2010, la situation est assez proche de celle des États-Unis. Le capital intérieur du Canada est évalué à environ 410% du revenu national canadien. Sur ce total, les actifs possédés par des investisseurs étrangers, diminués des actifs étrangers détenus par les investisseurs canadiens, représentent moins de 10% du revenu national. En termes de position patrimoniale nette, le Canada est donc détenu à plus de 98% par les Canadiens et à moins de 2% par des étrangers. Cette comparaison entre les États-Unis et le Canada est intéressante, car il est difficile de trouver des raisons purement économiques permettant d'expliquer des trajectoires aussi massivement différentes au sein de l'Amérique du Nord. De toute évidence, les facteurs politiques ont joué un rôle central. Même si les États-Unis ont toujours fait preuve d'une grande ouverture face aux investissements étrangers, on imagine assez mal l'opinion américaine accepter au XIXe siècle qu'un quart du pays soit possédé par l'ancien colonisateur. Cela pose moins de problèmes au Canada, qui est alors une colonie britannique. Le fait qu'une part importante du pays soit possédée par le Royaume-Uni n'est donc finalement pas si différent que cela du fait qu'une part importante des terres ou des usines de l'Écosse ou du Sussex soit détenue par des Londoniens. De même, le fait que la position patrimoniale canadienne soit restée si longtemps négative doit être relié à l'absence de rupture politique violente. Le Canada a cessé d'être un dominion dans les années 1930. Mais son chef d'État est toujours la reine d'Angleterre. Et donc, à l'absence des expropriations qui, dans d'autres parties du monde, ont généralement accompagné les indépendances, notamment pour ce qui concerne les ressources naturelles. Nouveau monde et ancien monde, le poids de l'esclavage. Il est impossible de conclure cet examen des métamorphoses du capital en Europe et en Amérique sans examiner la question de l'esclavage et de la place des esclaves dans les patrimoines américains. Thomas Jefferson ne possède pas simplement des terres. Il détient également plus de 600 esclaves, hérités notamment de son père et de son beau-père, et son attitude politique sur la question a toujours été extrêmement ambiguë. Son idéal de république de petits propriétaires, égaux en droit, ne concerne pas les gens de couleur, sur lesquels repose en grande partie l'économie de sa Virginie natale. Devenu président des États-Unis en 1801, grâce aux voix des États du Sud, il signe toutefois une loi mettant fin à l'importation de nouveaux esclaves sur le sol américain à compter de 1808. Cela n'empêche pas une forte progression du nombre d'esclaves. L'accroissement naturel est moins coûteux que la traite, qui est multiplié par 2,5 entre la période de la déclaration d'indépendance, dans les années 1770, environ 400 000 esclaves, et le recensement de 1800, 1 million d'esclaves, puis de nouveau par plus de 4 entre 1800 et le recensement de 1860, plus de 4 millions d'esclaves, soit au total une multiplication par 10 en moins d'un siècle. L'économie esclavagiste est en pleine croissance quand éclate la guerre de sécession en 1861, conflit qui aboutit à l'abolition de l'esclavage en 1865. Vers 1800, les esclaves représentent près de 20% de la population des États-Unis, environ 1 million d'esclaves sur une population totale de 5 millions d'habitants. Dans les États du Sud, où est concentrée la quasi-totalité des esclaves, la proportion atteint 40%, 1 million d'esclaves, 1,5 million de blancs pour une population totale de 2,5 millions d'habitants. Tous les blancs ne possèdent pas des esclaves, et seule une infime minorité en possède autant que Jefferson. Le patrimoine négrier est l'un des plus concentrés qui soit, comme nous le verrons dans la troisième partie. Vers 1860, la proportion d'esclaves au niveau de l'ensemble des États-Unis est tombée à environ 15%, environ 4 millions d'esclaves pour une population totale de 30 millions, compte tenu de la forte croissance de la population des États du Nord et de l'Ouest. Mais dans les États du Sud, la proportion atteint toujours 40%, 4 millions d'esclaves, 6 millions de blancs, pour une population totale de 10 millions. Il existe de nombreuses sources historiques permettant de connaître les prix des esclaves aux États-Unis des années 1770 aux années 1860, qu'il s'agisse des inventaires de biens au décès, probate records, rassemblés par Alice Hanson Jones, des données fiscales et des recensements utilisés par Raymond Goldsmith, ou des données portant sur les transactions et les marchés aux esclaves collectés notamment par Robert Fogel. En confrontant ces différentes sources, globalement très cohérentes entre elles, nous sommes parvenus aux estimations moyennes présentées sur les graphiques 4.10, 4.11. On constate que la valeur totale des esclaves était de près d'une année et demie de revenu national aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle et pendant la première moitié du XIXe, c'est-à-dire approximativement autant que la valeur des terres agricoles. Si l'on inclut les esclaves avec les autres éléments de patrimoine, on constate que le total des patrimoines américains est finalement relativement stable de l'époque coloniale à nos jours, autour de 4 années et demie, 5 années de revenu national. Une telle addition est évidemment plus que discutable. Elle est la marque d'une civilisation traitant certains individus comme des objets à posséder et non comme des sujets dotés de droits, et en particulier du droit de posséder. Mais cela permet de prendre la mesure de l'importance du patrimoine négrier pour les propriétaires d'esclaves. Cela apparaît plus clairement encore si l'on distingue les États du Sud et les États du Nord, et si l'on compare la structure du capital, esclaves compris, dans les deux parties des États-Unis vers 1770-1810, à celle en vigueur au Royaume-Uni et en France à la même époque. Voir graphique 4.11. Au sud des États-Unis, la valeur totale des esclaves est comprise entre 2 années et demie et 3 années de revenu national, si bien que la valeur combinée des terres agricoles et des esclaves dépasse les 4 années de revenu national. Au final, les propriétaires sudistes du Nouveau Monde contrôlent plus de richesses que les propriétaires terriens de la vieille Europe. Leurs terres agricoles ne valent pas grand-chose, mais comme ils ont eu la bonne idée de posséder également la force de travail travaillant sur ces terres, leur patrimoine total est encore plus élevé. Si l'on additionne la valeur marchande des esclaves aux autres éléments de patrimoine, on dépasse les 6 années de revenu national dans les États du Sud, soit presque autant que la valeur totale du capital au Royaume-Uni et en France. À l'inverse, dans les États du Nord, où il n'existe presque pas d'esclaves, le total des patrimoines est effectivement très faible, à peine 3 années de revenu national, soit 2 fois moins qu'au Sud et qu'en Europe. On voit que les États-Unis d'avant la guerre de sécession sont bien loin d'être le monde sans capital que nous avions évoqué plus haut. Le nouveau monde combine en fait 2 réalités totalement opposées. D'un côté, au Nord, un monde relativement égalitaire où le capital ne vaut effectivement pas grand-chose, car les terres sont tellement abondantes que chacun peut devenir propriétaire à bas prix, et aussi parce que les nouveaux migrants n'ont pas encore eu le temps d'accumuler beaucoup de capital. Et de l'autre, au Sud, un monde où les inégalités autour de la propriété prennent au contraire la forme la plus extrême et la plus violente qui soit, puisqu'une moitié de la population possède l'autre moitié, et que le capital négrier a dans une large mesure remplacé et dépassé le capital terrien. Cette relation complexe et contradictoire des États-Unis avec l'inégalité se retrouve dans une large mesure jusqu'à nos jours. D'un côté, une promesse égalitaire et un espoir considérable placés dans cette terre d'opportunité que représentent toujours les États-Unis pour des millions de migrants d'origine modeste. De l'autre, une forme extrêmement brutale d'inégalité, notamment autour de la question raciale, toujours très présente aujourd'hui. Les Noirs du Sud des États-Unis ont été privés de droits civiques et ont fait l'objet d'un régime de ségrégation légale jusqu'aux années 1960. Régime juridique qui n'est pas sans rapport avec le système d'apartheid qui se prolonge en Afrique du Sud jusqu'aux années 1980 et qui explique sans doute bien des aspects du développement, ou plutôt du non-développement de l'État social en Amérique. Capital négrier et capital humain. Nous n'avons pas cherché à estimer la valeur du capital négrier pour d'autres sociétés esclavagistes. Au Royaume-Uni, où l'esclavage est aboli en 1833-1838, ou en France, où l'abolition se fait en 2 étapes, première abolition en 1792, rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1803, abolition définitive en 1848, une partie du capital étranger au XVIIIe et au début du XIXe siècle prend la forme de plantations aux Antilles, à l'image de Sir Thomas dans Mansfield Park, ou sur les îles esclavagistes de l'océan Indien, îles Bourbon et îles de France, devenues îles de la Réunion et îles Maurice après la Révolution française. Ces actifs incluent donc implicitement des esclaves que nous n'avons pas cherché à calculer séparément. Le total des actifs étrangers, ne dépassant toutefois pas 10% du revenu national pour ces 2 pays au début du XIXe siècle, l'importance des esclaves dans le total des patrimoines était évidemment bien moindre qu'aux États-Unis. À l'inverse, dans des sociétés où les esclaves représentent une partie importante de la population, la valeur marchande du capital négrier peut naturellement atteindre des niveaux très élevés et potentiellement encore plus élevés qu'aux États-Unis et que toutes les autres formes de patrimoine. Considérons un cas extrême où la quasi-totalité de la population est possédée par une infime minorité. Supposons à titre illustratif que le revenu du travail, c'est-à-dire ce que rapporte le travail aux propriétaires d'esclaves, représente 60% du revenu national, que le revenu du capital, c'est-à-dire les loyers, profits, etc., que rapportent les terres et autres capitaux à leurs propriétaires, représente 40% du revenu national, et que le taux de rendement de toutes les formes de capital non humain soit de 5% par an. Par définition, la valeur du capital national, hors esclave, est égale à 8 années de revenu national. C'est la première loi fondamentale du capitalisme. Bêta égale alpha sur R, introduite dans le chapitre 1. Dans une société esclavagiste, on peut appliquer la même loi pour la capitalisation négrière. Si les esclaves rapportent l'équivalent de 60% du revenu national et si le taux de rendement annuel sur toutes les formes de capital est de 5%, alors la valeur marchande du stock total d'esclaves est égale à 12 années de revenu national. Soit moitié plus que le capital national, tout simplement parce que les esclaves rapportent moitié plus que le capital. Si l'on ajoute la valeur des esclaves à celle du capital, alors on obtient naturellement 20 années de revenu national, puisque la totalité du flux annuel de revenus et de production est capitalisée au taux de 5%. Dans le cas des États-Unis, des années 1770-1810, la valeur du capital négrier est de l'ordre de 1,5 année de revenu national, et non de 12 années. D'une part parce que la proportion d'esclaves dans la population est de 20% et non de 100%, et d'autre part parce que la productivité moyenne des esclaves est évaluée un peu au-dessous de la productivité moyenne du travail, et que le taux de rendement du capital négrier est généralement plus proche de 7-8%, voire davantage, que de 5%, d'où une capitalisation plus faible. En pratique, dans les États-Unis d'avant la guerre de sécession, le prix de marché d'un esclave est typiquement de l'ordre de 10-12 années de salaire d'un travailleur libre équivalent, et non de 20 années, comme l'aurait exigé une productivité équivalente et un rendement de 5%. Vers 1860, le prix moyen d'un esclave mâle, dans la force de l'âge, était d'environ 2 000 $, alors que le salaire annuel d'un travailleur agricole libre était de l'ordre de 200 $. Encore faut-il préciser que les prix varient énormément suivant les caractéristiques de l'esclave et l'évaluation qu'en faisait son propriétaire. Dans Django Unchained, Quentin Tarantino met en scène un riche planteur prêt à se défaire de la belle Brumilda pour seulement 700 $, mais qui exige 12 000 $ pour vendre ses meilleurs esclaves de combat. En tout état de cause, on voit bien que ce type de calcul n'a de sens que dans des sociétés esclavagistes où le capital humain peut, de fait, être vendu sur un marché sur une base permanente et irrévocable. Certains économistes, en particulier dans une série de rapports récents de la Banque mondiale consacrée à la richesse des nations, choisissent de calculer la valeur totale du capital humain en capitalisant la valeur du flux de revenus du travail à partir d'un taux de rendement annuel plus ou moins arbitraire, du type 4% ou 5%. Ces rapports concluent avec émerveillement que le capital humain représente la première forme de capital dans le monde enchanté du XXIe siècle. Cette conclusion est en réalité parfaitement évidente et aurait également été obtenue avec le monde du XVIIIe siècle. À partir du moment où plus de la moitié du revenu national va au travail et où l'on choisit de capitaliser le flux de revenus du travail au même taux ou à un taux voisin que le flux de revenus du capital, alors par définition, la valeur du capital humain dépasse celle des autres formes de capital. Nul besoin de s'émerveiller et nul besoin pour faire ce constat de passer par une opération fictive de capitalisation. Il suffit de comparer les flux. Attribuer une valeur monétaire au stock de capital humain n'a de sens que dans des sociétés où il est effectivement possible de posséder de façon pleine et entière d'autres individus, sociétés qui, a priori, ont définitivement cessé d'exister.